Oui, disons, on est un peu dans les meilleures villes la même fois. En deux mots, j'étais catholique romain jusqu'à il y a 6 ans, et puis j'ai appris incidemment que le catholicisme romain était né en 1054. Oui. Et avant, depuis l'origine, l'Église était orthodoxe, pas partout. Donc c'est ce qui m'a un petit peu incité à revenir aux ressources. Et donc je suis entré dans l'Église orthodoxe en janvier 2010, c'est ça, oui. Et depuis, donc, j'ai découvert un certain nombre de choses qui m'ont confirmé dans mon changement. Et ça a éclairé ma vie. Bon. Alors, notamment dans l'Église orthodoxe, on a plusieurs principes de base. On est devant Dieu trinitaire, hein, Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. Le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ, qui est à la fois homme et Dieu, de nature. Il y a Marie reste restée vierge avant, pendant et après la naissance du Christ. On a un mode de fonctionnement qui est ce qu'on appelle la synergie, c'est-à-dire qu'en fait Dieu appelle l'homme, propose sa grâce. Dieu a d'abord mis son image en nous, à nous tous, et il nous appelle à lui ressembler en fait. Donc il nous tend la main à nous librement de l'accueillir ou de ne pas l'accueillir. Dieu laisse l'homme libre tout le temps, il ne force jamais, il se propose, il se manifeste, mais il n'impose rien. Donc parce que l'amour forcé, ça n'a aucun sens. Donc c'est très difficile pour lui, parce qu'on voit tout ce qui se passe autour du monde, dans le monde, il y a beaucoup d'horreurs qui se produisent, parce que les gens sont méchants, criminels, égoïstes, orgueilleux, etc. Et Dieu sait ça, mais il n'impose rien, il attend, il sait. Il y a une phrase très belle dans l'Apocalypse qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai pour souper, moi auprès de lui, lui auprès de moi. » Ça veut dire qu'en fait, il attend patiemment à la porte de notre cœur qu'on vienne lui ouvrir la porte, mais il ne force pas la porte. Alors, il faut d'abord, si quelqu'un entend ma voix, il faut entendre, il faut avoir les oreilles ouvertes, il ouvre la porte, ça fait deux choses, il faut entendre et ouvrir la porte. À ce moment-là, il rentrera en nous, et puis à ce moment-là, il pourra travailler en nous. Alors si on le refuse, on sera toujours seul et perdu. Donc cette synergie entre Dieu. Dieu propose, mais il faut que l'homme fasse un effort quand même pour aller vers lui. Il faut qu'il se dérange, qu'il accepte d'ouvrir son cœur, de travailler, de se modifier, de renoncer à ce qui ne va pas pour accueillir ce qui va bien, etc. Bon, alors dans l'Église orthodoxe, on a une grosse part qui est vénération des saints également. C'est à ce titre-là qu'en arrivant à l'Église orthodoxe, ce qui se pratique assez peu chez les catholiques d'ailleurs, je me suis mis à découvrir la vie des saints, et des saints que je ne connaissais pas bien sûr avant, très puissants. Le premier, Saint Jean de Shanghai, qui est un saint russe, qui était évêque à Shanghai, puis qui après était évêque à San Francisco, aux États-Unis, qui est mort en 1966, et dont le corps est toujours entier. Comme je suis allé voir en 2013, hein, 50 ans après sa mort, son corps est toujours entier. Récemment, ils ont changé ses vêtements, le corps est souple. Et cet homme-là a fait des miracles pendant sa vie et après sa mort. Alors, San Francisco, c'est un peu loin. Alors, les premiers saints que j'ai découverts, je vais peut-être vous parler du premier qui est, enfin c'est pas le premier, mais c'est un de ceux qui m'ont impressionné. Il s'agit de Saint-Aubert. Saint-Aubert, c'est l'évêque d'Avranches. Avranches, c'est quoi Dimont-Saint-Michel, c'est 11 km Dimont-Saint-Michel. Alors, je vais partir faire un voyage avec ma famille au Mont-Saint-Michel, et je me suis renseigné, pourquoi le Mont-Saint-Michel? Alors, Saint-Michel, c'est l'archange Saint-Michel, c'est lui qui a demandé. C'est lui qui a en quelque sorte se solliciter à la création de cet édifice. Et c'est l'évêque d'Auvers qui l'a choisi en 709. Donc vous voyez, c'est en premier millénaire en France. Donc à l'époque, l'église était orthodoxe, il n'y avait que des orthodoxes. Et en 709, donc il a sollicité l'évêque d'Avranches, la nuit en songe, en lui demandant de bien vouloir aller construire une église sur le Monton, qui avait le Monton, c'est le Mont-Saint-Michel, c'est une île qui était autrement dépouillée. Alors, il s'est réveillé, il a pas cru, parce que construire une église sur un truc comme ça à cette époque-là, sans bulldozer, sans bruit, c'est assez compliqué. Et donc, 15 jours ou 3 semaines après, il a eu de nouveau le même rêve et la même demande de l'archange Saint-Michel de bien vouloir construire cette église que dans ses montres. Et il n'a toujours pas connu. Bon, parce que c'était lui paraissait complètement invraisemblable. Il avait beau être évêque, croyant, chrétien, etc. Bon. Il est la troisième fois, encore une semaine après, ou trois semaines après, il a donc le troisième rêve, et cette fois-ci, l'archange Saint-Michel lui a laissé la trace de son doigt dans le crâne. Donc quand il s'est écossé, alors tout à l'heure on verra tout ça, c'était voilà le crâne de le chef de Saint-Omer, et donc le trou de, qui s'est censé être représenté, le trou de l'archange. Donc alors, quand il s'est réveillé, il ne pouvait plus douter, donc il a mis en marche les travaux pour faire cette... Et bon, il a rencontré beaucoup de difficultés, et toutes ces difficultés ont été résolues quasiment miraculeusement. Il n'y avait pas d'eau potable que le vent, il y a une source qui a jailli immédiatement, mais qui a coulé pendant au moins 1 000 ans. Il y a toujours elle est toujours au Mont-Saint-Michel, mais elle est terrible. Et puis, bon, il a fallu faire sauter des rochers là, qui gênaient. Bon, il y avait plein de miracles qui ont permis l'édification du lieu. Alors, ce Mont-Saint-Michel, ça fait 1300 ans qu'il est là, il a résisté à toutes les invasions. C'est remarquable. C'est l'archange Saint-Michel qui a demandé que cet édifice soit bâti, le voilà d'ailleurs. Et l'archange Saint-Michel, si vous voulez, dans la tradition orthodoxe, il dit que... au début, il protégeait l'Israël, et puis quand Israël n'a pas écouté le Christ, donc il s'est transplanté vers l'Occident et il est devenu protecteur de la France. En fait, l'archange Michel est protecteur de la France, et on le prie chaque année dans l'église orthodoxe. Alors, avant de partir au Mont-Saint-Michel, j'ai découvert ça il y a donc un an, bientôt 2 ans, et je ne savais pas, donc j'ai découvert que ces reliques, donc le crâne qu'on a vu tout à l'heure, sont exposés dans l'église Saint-Gervais, la basilique Saint-Gervais à Avranches, qui est à 11 km de Mont-Saint-Michel. Et j'y suis allé, et bon, je suis arrivé vers midi là-bas. Alors, je vais vous expliquer un petit détail. Le dimanche soir, j'ai un petit enfant qui avait 7 ans et demi à l'époque, 8 ans, et qui commence à avoir des boutons. Et le lendemain matin, avant de partir, je l'amène chez le médecin, puis il avait, le médecin dit, c'est la varicelle. La varicelle, c'est des boutons partout, qui va gratter, ça va faire des croûtes partout, ça va être abominable pendant 3 semaines. Alors on s'est demandé si on allait partir ou pas, finalement on a pris la décision de partir. On est allé vers Ronfleur, Dobby, etc. Et puis le lendemain, on a couché par là, le lendemain, je me suis arrêté à l'église d'Avranches. Et alors les boutons me faisaient quand pirait, etc. Alors je m'arrête près de l'église d'Avranches, et ma femme est chinoise, donc ses parents étaient là aussi. J'avais expliqué ça à ma femme, l'histoire du Mont-Saint-Michel d'Avel. Ma femme n'est pas croyante, donc en général, elle écoute une oreille très discrète, ça l'intéresse pas beaucoup. Et avant de sortir la voiture, elle prend l'initiative d'expliquer tout ça en chinois à ses parents. Et comme je connais un peu le chinois, j'ai pu vérifier qu'elle avait tout raconté. 709, etc. Bon. J'étais un peu surpris, ça c'est déjà un petit peu miraculeux, parce que ma femme qui prend tout croyante prend l'initiative de... d'expliquer à ses parents qui sont encore moins croyants, parce qu'ils sont d'un régime communiste épouvantable, c'était assez comme... Alors je sors la voiture un peu bouleversée par cette initiative, je fais 50 mètres pour l'église, je rentre dans l'église, je suis exactement dans l'église, donc on rentre ici, puis à droite il y a une pièce où il y a les reliques, hein. L'église était presque déserte. Bon, je me présente devant les reliques, je fais mes prières au sein, et je prends le petit, je prends dans le sein, je fais mes prières, et puis bon, on sort, on va retourner en face à 50 mètres, on commence à manger, j'ai appris quelques photos aussi, et puis on commence à manger, puis bon, entre le hors d'œuvre et le repas principal, je regarde mes photos sur mon appareil photo, et puis elle n'existait plus, elle avait disparu. Alors j'étais très gêné, parce que ça j'y tenais. Puis c'est la première fois que cet appareil photo de ce coup-là, un appareil photo de qualité. Alors, je dis à tout le monde, vous excusez-moi, je retourne à l'église qui est en face, je referme mes photos et puis je reviens. Alors je rentre dans l'église, cette fois était totalement déserte. Alors je vais vers les reliques de nouveau, je fais mes photos, et cette fois j'ai pu prier seul dans l'église, devant le stade, bon, tout ce que j'ai vu. Et une fois que j'ai fini, donc je vais pour ressortir et je croise un couple. Il y a un homme et une femme de 35 ans, à peu près, qui rentre, je dis bonjour. Il vous allez voir les collines de Saint-Aubert. Il dit Saint-Aubert, il ne connaissait pas du tout. Alors je vais leur expliquer, puis donc, je leur ai montré, je leur ai expliqué l'histoire. Et la femme qui a vu qu'il était intéressé, d'un seul coup, son mari qui avait fait le tour de l'église, elle m'a confié qu'elle avait un gros problème, qu'elle était dépressive, qu'elle était voir une voyante. Elle avait entendu des voix de Marie. Bon. Alors pour avoir l'explication, elle était voir une voyante. Bon, je ne sais pas si c'était la bonne réflexe. Et la voyante lui a dit qu'elle allait se suicider. Donc d'après elle dit que la femme allait se suicider. Alors elle était totalement, comment dire, interloquée, extrêmement inquiète de ce qui allait lui arriver. Alors je lui ai expliqué que le christianisme, c'est pas ça du tout, que Dieu nous aime, que c'est à elle de faire la démarche vers lui, que la vie lui a été donnée, il faut rendre grâce pour la vie qui lui a été donnée, c'est pas nous qui en décider, et que tout, il faut faire attention par contre toutes les forces démoniaques qui viennent nous freiner, nous gêner pour aller vers Dieu. Dès qu'on s'élance vers Dieu, on rencontre des forces démoniaques, c'est clair. Le démon n'aime pas du tout qu'on aille vers Dieu. Et on a fini par s'écrouler, elle est venue dans les bras, elle pleurait, j'étais très gêné. Et je lui ai expliqué tout ça, et finalement, le sourire lui est revenu, et elle était un petit peu rassurée, ils sont sortis en souriant, et ils m'ont dit au revoir, etc. Et donc je suis rentré au restaurant, j'y vais ici rapidement, mes photos cette fois, t'es mieux, c'est l'appareil photo. T'es pas eu trois fois quand même. Elles y étaient, alors non seulement elles y étaient, mais j'ai retrouvé les précédentes. Alors en fait, j'ai été appelé à l'église que pour aller parler à la future suicidée. Vous voyez, donc ça c'est à peu près si vous voulez le deuxième miracle. Alors j'ai pire, pendant le repas, alors un détail stupide, ça peut arriver avant ou après, bon, il se trouve que ma femme a eu un problème avec son opérateur téléphonique, et puis en fait il voulait lui faire payer une facture de 283 € qui n'était pas du tout justifiée. C'était faux, c'était pas dans le contrat. Ça fait trois mois qu'on bataillait pour se faire rembourser, on n'y arrivait pas. Elle a reçu un SMS pendant le repas. Voilà, comme quoi c'était arrivé. Mais bon, c'est un petit détail. Alors, un autre miracle qui est délicat celui-là, parce que dans les orthodoxes, on a ce qu'on appelle l'éthique, on marque les dents des gens pour lesquels on veut prier sur un papier, puis on les lit devant soit pendant la liturgie, soit devant le saint. Alors, je lisais l'éthique à moi, les gens auxquels je pensais. Et à un moment donné, je suis arrivé, tout était calme. D'un seul coup, j'ai prononcé le nom d'une personne qui s'est approchée du christianisme, de Dieu, et puis à fois qu'il avait, totalement renoncé, de façon assez ignoble d'ailleurs. Et quand j'ai prononcé le mot, j'ai vu le Saint faire une grimace. Le Saint faire une grimace. C'est là, j'en veux pas. Comme si, j'avais dit, jusque-là, c'est comme s'il n'était pas là, et d'un seul coup, il s'est manifesté. Moi, je ne m'occupe pas de ce cas-là, c'est vraiment, on m'a dit. Alors, ça fait assez impressionnant, parce que là, je ne m'attendais pas à ça du tout. Bon, je reviens au restaurant, puis on s'en va, et l'après-midi, donc, on visite le Mont-Saint-Michel, et le soir, ma belle-mère va pour faire le bain du petit, qui avait 7-8 ans. Puis elle nous a fait presque en criant, puis le bouton. On dit la varicelle disparue en 48 heures alors que le médecin nous avait promis 3 semaines de douleur. Mais plus de bouton du tout, il y avait une petite croûte qui restait là, c'est tout. En rentrant le vendredi suivant, vendredi je retourne chez le médecin, je lui dis, excusez-moi, je ne suis pas trompé de maladie parce que vous m'avez dit 3 semaines et puis ça a duré 48 heures. Alors il s'est presque mis en colère, parce que je connais mon métier. Je sais ce que c'est que la varicelle. Je lui dis, attendez, il n'y a plus rien. Il dit, t'es très ennuyé, bien sûr. Et donc il m'a dit que probablement que l'herbe de l'océan lui a fait du bien. Voilà. C'était la folle. Et voilà, donc voilà pour la première partie de mon exposé. Donc ce saint-là, qui est pratiquement inconnu, parce que moi j'étais 5 ans dans Saint-Michel dans ma vie, je me suis intéressé à son existence que cette dernière fois. J'ai cherché sur Internet, j'ai cherché quelle était sa vie, qu'est-ce qu'il avait fait, etc. Et l'origine de Mont-Saint-Michel. Et une fois devant lui, ce saint est très actif. Et qui est toujours là, actif. Il faut quand même, je parle tout à l'heure de synergie, il faut accepter de se rendre espoir, de se déranger, de chercher, c'est-à-dire de se mettre devant lui humblement, et à ce moment-là, il se manifeste. Et je pense que les sages sont très doux, en fait, ils ne sont pas du tout incursifs, comme Dieu d'ailleurs. Hein. Et ils n'imposent rien, ils sont là, ils attendent qu'on se convertisse. Et si on fait un effort vers eux, ils acceptent de faire le lien, de faire la réponse. Ça c'est le premier. Donc l'autre, c'est... c'est sensible. tu réponds toi. Alors, c'est sensible, c'était l'année d'avant, en fait, c'était en Grèce. Alors, je voulais, en fait, j'avais appris dès le début de ma conversion à l'orthodoxie. J'ai donc appris que c'est ça, la Saint-Jean-Chang'an, après j'ai demandé au prêtre ce qu'il y a d'autre, il m'a cité Saint-Nectaire d'Égine, dont Pierre a parlé tout à l'heure. Égine, c'est une île qui est près d'Athènes, hein, c'est dans l'île, c'est à 1 heure de bateau d'Athènes. Et un saint qui est mort en 1920, en Grèce, orthodoxe, et qui est une histoire très compliquée, tu te rappelles, et qui a fait des miracles pendant sa vie et après sa mort. Bon. Et moi, je trouve que le petit enfant que j'avais, qui avait la Restelle, il a 9 ans aujourd'hui, il parle toujours pas. Il est autiste, il parle toujours pas. Il est autiste, calme, gentil, mais il s'intéresse à beaucoup de choses, mais il ne trouve pas le langage. Alors à l'époque, il avait 3-4 ans, donc je suis allé à Égine, dans l'espoir de présenter à Saint-Nectaire, alors je suis allé à Égine, et ensuite, il se trouve que ce saint-là avait créé un monastère à Égine, qui s'appelle le monastère de la Sainte-Trinité, et il a également vécu à l'île de Chios, au Brios, qui est une île qui est grecque, qui est près de la Turquie, donc de très loin.
Tu peux
jouer
quelques photos de cette île-là, ou là on était sur Saint-Antoine, en fait.
Oui, oui.
Après, que je parle d'abord de Chios.
C'est ça. Et donc, je suis donc allé sur cette île-là, parce que Saint-Nectaire a vécu 10 ans sur cette île, et il a été instituteur assez longtemps, dans un petit village qui s'appelle Liti, qui est à l'ouest de l'île de Chios. Et après, il a été tonsure et moine au monastère de Néamonique, qui est au centre de l'île, c'est très rocheux, c'est très montagneux. Et donc, il est resté 2 ans. Et il y a donc, comme dit Pierre, voilà l'église qui est dans le monastère. Et puis, dans cette église, il y a aussi des reliques de Saint-Nectaire. Donc, alors, j'ai présenté le petit au prêtre qui était là. Et puis, bon, j'ai rencontré un ami grec qui parlait très bien anglais, avec qui j'ai pu expliquer pour au prêtre qui parlait que grec, hein, le problème du petit. Hein. Et mon ami a dit, si vous avez ce problème-là, il y a aussi un autre saint, à 10 km d'ici, qui s'appelle Saint-Antime. Saint-Antime, qui est mort en 1960. Allô? Et mon ami Grec m'a amené au monastère de ce saint-là, qui est donc à 10 km de là, pour réexpliquer mon problème d'autisme de mon fils, et puis pour le présenter également au reliques de ce saint. Et alors, en entrant dans les livres que vous voyez l'autre, c'est une photo que j'ai trouvée sur la table, parce qu'ils refusent qu'on fasse des photos sur place. En entrant dans cette église, là, il y a le crâne dans ce petit coffret, voilà, c'est le crâne, tu peux mettre l'avant, cette photo. C'est de l'avant, oui.
C'est de l'avant.
C'est là, oui, le crâne, il est là. Allô? Je ne vois pas ce qu'il fait. Et donc je suis surpris qu'autour des... Alors dans l'église orthodoxe, il y a des icônes du Christ, la mère de Dieu, puis les saints locaux, et puis à côté, il y avait l'icône du saint, et en face, il y a une icône de l'Irmerie. Et alors, je vois qu'autour de l'icône, il y avait plein d'objets accrochés, mais des dizaines, voire des centaines, c'était fort. La plupart, c'était des médailles qui représentaient en quelque sorte le miracle qui avait été obtenu par l'intercession des du saint. Alors, j'ai demandé ce que c'était, et on m'a dit, bah oui, c'est ce saint-là, il est spécialisé en quelque sorte dans les problèmes des femmes stériles. C'est-à-dire que toutes les femmes qui étaient stériles, qui ont eu un enfant par intercession du saint, ont accroché une médaille autour de l'icône. Bon. Alors j'étais surpris parce que, j'étais pas venu pour ça du tout. Il se trouve que j'ai une fille qui avait 30 ans à l'époque, et ça fait 10 ans qu'elle essaie d'avoir un enfant, même avec deux maris, puisqu'elle avait divorcé une première fois. Et donc, elle ne marchait toujours pas, elle a fait tout ce qu'il fallait sur le plan médical, etc. Enfin, elle s'est battue pendant 10 ans pour un enfant, toujours pas. Alors, je pensais à ça, mais bon, je pense en plus. Quoi. Puis, je suis visité le tombeau du saint et le musée qui est à côté, et au fond du musée, je ne sais pas si tu as la photo. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, aux photos, il y a tous les bambins qui sont nés miraculeusement, qui étaient affichés avec un cahier pour expliquer. Alors ça commençait à réaliser que c'était un truc important. Hein. Bon, puis alors, on termine la visite, je passe les détails. Je rentre en France, 15 jours après, ma fille est enceinte. Alors ce coup, je n'ai pas trop dit, parce que comme elle avait déjà fait des fausses couches, etc., si j'avais sa foi, je vais être ridicule. Donc j'ai préféré ne pas en parler. Et elle aussi, elle n'est pas croyante du tout. Alors, au bout de... c'était le mois de mai, ça, donc le 1er mai, 15 mai, elle est enceinte, disons. Et puis vers le mois de juin, juillet, je lui ai dit, est-ce que en fait, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais est-ce que tu veux que tu envoies, est-ce que tu as prévu comme prénom? Parce que chez les orthodoxes, on préfère avoir un nom d'un saint orthodoxe pour pouvoir s'accrocher au sein, bon, le prier, etc., protecteur, enfin, une occasion, si vous voulez, de prier le saint, avec ce qu'il a fait dans sa vie. Je ne peux pas trouver un prénom. Alors, à tout hasard, j'ai envoyé une liste de noms, des prénoms orthodoxes, il y a à peu près 990, je crois, des prénoms orthodoxes, une grande liste, et pas de nouvelles. Alors, au mois de septembre, je le rappelle, je lui dis, tiens, est-ce que tu as choisi un prénom? Elle me dit, il est dans ta liste. Salut, pas de détails. Je ne sais pas si je suis anglais, je n'ai pas insisté. Le bébé était toujours accroché correctement, il ne faut pas se mettre en couche. Et il est né, en fait, il est né le 17 janvier, suivant. Et elle avait choisi comme prénom Antoine, donc comme Saint-Antoine d'Égypte, qui avait vécu au 3e ou 4e siècle, hein, qui avait vécu 105 ans. Et le 17 janvier, c'était la fête du saint. C'est la fête Saint-Antoine. Autrement dit, elle est née suite à l'intercession du saint, mais le petit qui s'appelait Antoine. Donc elle est sur l'intercession du saint. Elle a choisi, sans que je sache, un prénom qu'elle ne savait même pas que c'était le jour de la fête de Nitré. Il est né jour de la fête du saint. Bon. Alors ça fait beaucoup de choses, mais bon, ça n'a pas suffi pour qu'elle change. Elle est toujours ratée. Voilà. Voilà pour les deux. Alors, il y en a eu plein d'autres, bon, ce soir, on est limité par le temps, alors je vous laisserai la parole à faire pour le suivant. Mais...
Merci. 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 Il a présenté à Mont-Saint-Michel, ça a un endroit qui me touche aussi profondément. C'est là où j'ai eu ma conversion. Chaque fois que je visite Mont-Saint-Michel, il y a toujours quelque chose de mystérieux, quelque chose. Moi, j'ai vécu plein de miracles aussi à Mont-Saint-Michel. Donc c'est un endroit vraiment saint, mais pour... savoir le visiter, je pense. Après, on va présenter Pierre Tonic, qui va nous présenter encore la vie des saints. Voilà.
Alors, moi, je suis obligée de rester là parce que j'ai besoin de pianoter en même temps. Donc, je voulais simplement vous faire un témoignage par rapport à ce que j'ai vécu l'été dernier. L'été dernier, au mois de juillet, j'ai été invitée à un mariage orthodoxe à Athènes. Et suite à ce mariage qui n'était pas du tout prévu, de manière providentielle, j'ai été amenée dans deux monastères. Donc l'un à Néamakri, c'est le monastère de Saint-Ephrem, le nouvel apparu. Et le deuxième, c'était donc sur l'île d'Égine, le monastère donc, de Saint-Nectaire d'Égine. Donc je voulais vous présenter un petit peu ces saints, parce qu'ils sont très méconnus en France. Donc c'était l'occasion de faire connaissance avec eux. Voilà, donc je vous emmène en voyage en Grèce, voilà. C'est ça l'introduction, un petit peu dépaysant. Donc on va donc aller sur les traces de Saint-Éphrème et sur celle de Saint-Éphrème, le nouvel apparu. Alors, donc Saint-Éphrème, c'est ce qu'on appelle un saint thaumaturge. Donc thaumaturge, ça vient du grec justement Thomas, Dieu, prodige, et urgène, c'est produire, donc c'est celui qui produit, qui opère des miracles. Voilà, donc celui qui fait des miracles, tout simplement, le saint thaumaturge. On m'avait dit de commencer par les miracles. Alors il y a eu de très nombreux miracles de son vivant, mais aussi, suite à sa montée au ciel, il y a aussi eu encore beaucoup de miracles. Il y a toujours des miracles. Ah oui, c'est la date de naissance, c'est de moi. Bon, il est mort en 1920, mais il est né en 1800... Je sais plus, je crois que c'est parce qu'on m'a dit de faire sa vie après.
Il avait 70 ans, donc
ça. Il est né en 1846, voilà.
C'est un saint
moderne, alors. C'est un saint relativement contemporain. 1846-1920, ça va. Alors, de son vivant, il y a eu de nombreuses guérisons, notamment beaucoup de tumeurs cancéreuses, d'ulcères, d'épilepsie et des paralysies qui ont guéri. Le jour où il a été déclaré mort dans l'hôpital à Athènes, il y a un infirmier qui a, de manière négligente, il a enlevé son maillot de corps, il l'a jeté sur le lit d'à côté, et il y avait un paralytique à côté, il a guéri instantanément.
C'est rigolo parce que l'infirmière est en train de déshabiller le corps pour le préparer pour l'ensevelir. Puis il y avait deux lits, donc derrière il y avait le gars qui était paralysé depuis 6 mois. Elle a pris une balle de bord, elle est partie comme ça. Et puis elle retourne à sa tâche, et elle a entendu crier d'ailleurs, il se passe, le mec était debout. Qu'est-ce qu'il y a dans ce truc?
Depuis sa naissance au ciel, comme on dit souvent, on utilise cette terminologie beaucoup dans l'orthodoxie, la naissance au ciel, c'est assez beau. Dans la région de Canet, en 1952, donc, il y a eu la guérison miraculeuse d'une méningite tuberculeuse féroce. C'est un petit garçon qui s'appelle Erastes Mavraki, de 6 ans, et donc le médecin avait dit à ses parents qu'il devait se préparer parce qu'il allait mourir. Et en fait, le petit enfant a eu une apparition du saint qui lui a dit « Non, non, tu vas guérir. » Il a dit à ses parents « Ben non, en fait, finalement, je vais guérir. » Et ses parents lui disaient « Pourquoi tu dis ça ?» Et il était triste et tout. Il lui dit « Parce que Saint-Nectaire me l'a dit. » Il dit ça. Et en fait, il a guéri. Et donc le médecin revenait à chaque fois, il n'en revenait pas, il ne comprenait pas, mais il a guéri. On avait très nombreux, mais j'en ai choisi quelques-uns. Donc Euphémie Calici, elle a 12 ans, elle a retrouvé l'usage de sa jambe, la pauvre s'était fait écraser la jambe par une voiture. Et il y a eu une onction d'huile sainte, ce n'est pas n'importe quelle huile, c'était l'huile qui émanait du tombeau de Saint-Nectaire, de la lampe qui était dans le tombeau. Et c'est cette huile qui a été posée sur sa jambe et elle a guéri, elle a retrouvé l'usage de sa jambe, elle peut même marcher, courir maintenant. Enfin, il y a eu un autre miracle que j'ai choisi, c'était le miracle de la fécondité. C'était une institutrice de Trézène à Poros qui a beaucoup tardé à se marier, et une fois qu'elle avait quand même trouvé son mari, qui était d'ailleurs plus jeune qu'elle, elle a essayé d'avoir un enfant avec lui, ça ne marchait pas pendant 6 ans. Donc à un moment donné, elle n'en peut plus, elle va prier en larmes sur le tombeau de Saint-Nectaire, et là elle tombe enceinte. Voilà. Donc rien, mais tout est possible. Donc maintenant on va voir un petit peu la vie tumultueuse de Saint-Nectaire d'Évine. Alors il est né, voilà, je vous ai fait une petite carte, donc il est né dans une région qui s'appelle la Thrace en 1846, donc c'est vraiment le nord-est de la Grèce, donc il n'était pas loin non plus de la Turquie, vous voyez. J'ai mis une petite flèche pour qu'on voit à peu près. La Turquie c'est à droite en fait, mais lui il est... quand il était petit, il aimait beaucoup prier avec sa grand-mère, il priait beaucoup les psaumes notamment. Et aussi les pères fondateurs de l'église, elle lui a enseigné tout ça. Et déjà tout petit, il savait qu'il voulait enseigner, il avait une vocation pour la prêtrise et il était persuadé qu'un jour il pourrait enseigner Dieu aux autres. À peine à l'âge de 13 ans, il est envoyé travailler à Constantinople. Et là, ça va être très dur pour lui parce qu'il est embauché donc, par un marchand qui vend du tabac. Et ce marchand est très méchant avec lui, il lui en fait voir de toutes les couleurs. Alors il est dans des conditions de vie très difficiles, il a très froid, il a très faim, et l'autre le harcèle à tous les niveaux, moralement, son employeur. Donc c'est vraiment très dur et il n'en peut plus, et à un moment donné, il n'en peut tellement plus qu'il écrit une lettre au Christ, où il décrit toutes ses souffrances et lui dit, et lui demande de l'aide. Donc il écrit cette lettre, et puis il la plie, il la met dans l'enveloppe, et il écrit comme adresse aux cieux, hein, Jésus aux cieux. Donc.
C'est la lettre qu'il avait marquée à la fin, tu sais que je t'aime.
Ouais.
Le café aux cieux, c'était...
Et au moment où il allait partir pour la mettre à la poste, eh bien il croise, de manière providentielle, il croise un autre marchand, voilà, qui travaille dans la même rue, et le marchand lui dit, si tu veux, je vais amener ta lettre à la poste. Donc il lui donne la lettre, lui rentre, rentre chez lui, et le marchand, eh bien, il est quand même curieux parce qu'il voit cette adresse bizarre aux cieux, donc ce qu'il fait, c'est qu'en cachette, il ouvre la lettre et il la lit. Et en fait, ça le touche tellement qu'il est touché par les souffrances d'Anastase, parce qu'au départ, il s'appelait Anastase. Et du coup, il décide de devenir son bienfaiteur, de s'occuper de lui, de ne pas le laisser dans cette situation épouvantable. Donc, du coup, voilà, c'est le début des grâces. Enfin, quelque part, le Christ lui a déjà répondu, rien qu'il savait qu'il avait écrit cette lettre. Donc, il lui avait mis sur la route un bienfaiteur qui s'occupait de lui. Donc ça, c'était le début. Alors, à l'âge adulte, donc à l'âge de 20 ans, il devient instituteur sur l'île de Rios. Donc, c'est quelques photos qu'on a vues tout à l'heure. Alors, il est censé enseigner le programme officiel, mais en plus de ça, il enseigne, il enseigne aussi des enseignements beaucoup plus chrétiens. Voilà, il leur parle de Dieu, surtout comment accéder au salut. C'est le plus important pour lui, c'est qu'il veut que ses élèves soient sauvés, quoi. Ça, c'est la chose la plus importante, encore plus que les connaissances académiques.
Dans un contexte qui était déjà très chrétien, parce qu'en Grèce, ce qui est remarquable, c'est que le christianisme est partout. Ça transpire, tous les gens n'ont aucune difficulté à manifester leur foi, ils ont tous des proches autour du cou, c'est naturel. Quoi. Même là, donc, il y a les Zénétiens qui s'est évertué à enseigner la vraie foi.
Alors, ensuite, à l'âge de 30 ans, eh bien, il a un appel, alors, désolé, il avait un petit peu mis à l'âge, manifestement. Donc à l'âge de 30 ans, il entre au monastère, il a un vrai appel pour devenir moine. Donc il rentre au monastère de Nea Moni. Mais toutefois, à peine est-il rentré au monastère, quelques années après, il ressent qu'il a besoin encore d'étudier, de continuer à apprendre. Donc en particulier, il est attiré par la théologie, donc il va, de manière providentielle, il y a aussi un mécène qui va lui financer toutes ses études. Et ce mécène va lui permettre d'aller d'abord... d'apprendre la théologie à Athènes et même aussi à Alexandrie. Donc, à 39 ans, il est diplômé de la faculté de théologie d'Athènes. Voilà. C'est pas marqué, mais je vous le dis. Donc l'âge de la maturité, alors à 42 ans, alors là c'est la consécration, hein, il est nommé métropolite, c'est une sorte d'évêque, si vous voulez, de la Pentapole. Voilà. Donc c'est dans une région. Donc il est.
Est-ce que ça veut dire ce que m'a dit l'Église orthodoxe, en fait, elle n'est pas centralisée comme l'Église catholique avec un pape à Rome qui dirige tout le monde. Elle est organisée en métropole. Donc il y a plusieurs métropoles qui ont toutes la même mode de fonctionnement, le même évangile, le même christianisme, etc. Mais chacune est indépendante. Donc il n'y a pas un chef, il y a plusieurs métropoles, et de temps en temps ils se réunissent en concile, et c'est le concile se réunit, chaque évêque vient porter son témoignage, ça discute son argumentation, et en fait c'est le chef de l'église, c'est le Christ. Hein. Donc c'est, en fait, dans le concile, c'est le Saint-Esprit c'est le Christ qui dirige l'église, c'est le Saint-Esprit qui, quelque sorte, qui est le chef, c'est pas le pape.
Donc là, donc, lui, c'est le Saint-Esprit qui est le chef chez les catholiques.
Non, mais d'accord, c'est comme il n'y a qu'une seule métropole, chez les catholiques, ça donne l'impression, si vous voyez, qu'il y a un chef. Alors que là, on évacue cette illusion-là, et on est obligé de se rebrancher sur le vrai chef qui est le Christ.
On va rentrer dans le débat.
Oui, d'accord.
On n'a pas répondu.
D'accord, un peu. On va passer le débat après ça, mais d'abord, on écoute.
Il faut pas que je m'entende, parce que sinon, je vais porter le... Donc, il fut un pasteur, bon, c'est vraiment un homme qui était beaucoup plein de zèle, qui a enseigné l'évangile voilà, au peuple. Il a essayé d'être aussi exemplaire dans sa vie. Et c'est ça qui a sûrement contribué à sa popularité, parce qu'il était à la fois humble et à la fois très très... Il connaissait énormément de choses, mais il restait toujours humble. Il débordait vraiment d'amour pour les autres, et en particulier aussi, il a beaucoup fait pour les pauvres et pour les personnes qui sont venues le voir. Alors, malheureusement pour lui, à un moment donné de sa vie, il a suscité énormément de jalousie de la part de l'organisation, enfin du clergé en fait, de son temps. Et donc, ils ont eu peur qu'il prenne la place de patriarche, parce qu'il était vieux et il allait... C'est ça. Donc, il a été malheureusement calomnié pour qu'il n'accède pas à ce poste de patriarche. Et du jour au lendemain, alors qu'il s'entendait bien avec le patriarche, mais il a été déposé sans explication. Donc il se retrouve du jour au lendemain, on lui coupe tout, on lui coupe les vivres, on lui coupe tout. Et il se retrouve donc à Athènes, il part à Athènes, et là il vit une vie de pauvreté, une grande pauvreté. Mais malgré tout ce qui lui arrive, il garde sa douceur, son humilité, et il s'abandonne avant tout à la volonté de Dieu. Voilà. Donc, on va continuer. Alors après donc être tombé, on va dire, il va remonter quand même, puisque on va lui laisser l'opportunité d'être prédicateur sur l'île de Bé, donc je vous ai montré où c'est par rapport à Athènes qui est. Athènes est là et l'île de Bé c'est là. Donc là c'est pareil, il va quand même victime de cette mauvaise réputation qu'on a voulu lui faire en Égypte, et quand il arrive à Bé, c'est quelque chose qui m'a expliqué, mais il y a des personnes qui sont venues le sauver à un moment donné de la calomnie. Quoi.
En fait, quand il y a la calomnie, qu'est-ce qu'il s'agissait
On l'a accusé notamment d'avoir eu des... Enfin,
en fait, il recevait des gens chez lui pour les confesser, pour les enseigner. Et puis, il y avait aussi des hommes ou des femmes. Bon, on a dit qu'il recevait des femmes le soir. Et quand même, c'était pas pour les enseigner, c'était pour coucher avec. Voilà. On a découvert ce bruit. Et le métropolite, lui, il a cru sans vérifier. Donc il l'a viré. Et alors, cette réputation l'a suivi jusqu'à l'île de Bé. Alors les deux premiers dimanches qu'il a fait ses prédications, tout le monde rigolait dans les lignes. Personne ne le croyait. Il a beau faire quelque chose de... des belles paroles très, très, très puissantes, tout le monde rigolait. Et la troisième, alors il a dit, il s'est mis en prière, il a dit, Seigneur, je vais encore essayer une troisième fois. Si ça rate, j'arrête, je me fais moine, etc. Bon. Dans la semaine, entre le deuxième et le troisième dimanche, il y a des marchands qui sont venus de la Pâte à Paul, de l'île, et qui connaissaient la vérité et qui ont répandu la vérité auprès des habitants de la ville où ils travaillaient. Et le troisième dimanche, il a fait son homélie, superbe, et tout le monde a écouté de façon tranquille, et c'est comme ça qu'il a aussi, il s'est refait une réputation sur place. Mmh.
Ouais. Donc, à l'âge de 48 ans, là, il est nommé directeur de l'école Risarios d'Athènes. Donc c'est l'école qui forme, enfin c'est le séminaire en fait, si vous voulez, qui forme les futurs prêtres orthodoxes. Et à cette époque-là, on dit qu'il parvient à donner à l'école une haute tenue morale, donc il est très très bien considéré, il a une excellente réputation. Donc il a remonté largement là. Et puis voilà, que, alors qu'il est directeur de cette école, il y a des femmes qui viennent le voir et elles disent à Saint-Nectaire qu'elles ont vraiment un appel pour être moniales, et elles lui demandent s'il pourrait créer un monastère, et elles lui suggèrent l'île d'Égine, qui n'est pas très loin d'Athènes. Donc lui, il est connu pour sa sainteté, c'est clairement attirer les foules de plus en plus nombreux, et c'est là que ces femmes arrivent et lui demandent si elles veulent devenir moniales, elle lui propose l'île d'Égine, donc il accepte. Et il décide donc de fonder une communauté monastique sur l'île d'Égine. Voilà. Alors cette île, voilà, je vous donne une petite photo pour vous donner un petit aperçu, donc j'y suis allée. C'est vraiment très, très beau.
Tu es
allée?
Oui,
oui, bah oui.
Je vous rappelle très bien les vidéos.
C'est moi qui
suis. Ah oui, d'accord.
J'ai fait
la même.
Donc, alors ce qui est assez drôle, c'est la première fois qu'il arrive sur cette île. Eh bien, il est accueilli, il a une vision très très puissante d'un évêque qui a vécu sur cette île de 1547 à 1622, qui s'appelait l'évêque Denis Zakynthos. Il lui apparaît dans le port d'Égine pour l'accueillir, et voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit, Denis lui dit, viens donc mon frère, je t'attends, c'est toi qui seras désormais le protecteur d'Égine, viens donc mon frère. Voilà. Donc il est très bien accueilli par son prédécesseur. Donc voilà l'église qu'il va faire construire, l'église de la Trinité. Donc il fait édifier cette église en 1908, hein. C'est l'église de la Trinité. Voilà, je sais, c'est une photo que j'ai prise là-bas, c'est vrai que c'est très beau. Alors, je vous ai pas encore dit, mais c'est vrai que là-bas, je ressentais une paix très profonde lorsque je me suis promenée dans ce monastère. C'est vraiment très agréable. Donc ça, c'est l'intérieur de l'église. En fait, c'est des photos assez simples. J'ai
mis les liens et les tiens. En fait, en haut, il y a deux chapelles dans le monastère. Et celle de gauche contient les reliques, donc ici, le crâne. Tu peux passer la suivante, on verra une autre. Il y a le crâne ici, qui est les ossements ici, donc c'est là où on peut venir les reliques.
Alors ça, c'est très joli.
Oui, voilà, c'est intéressant parce que cet arbre-là, en fait, il est grand, parce qu'il a maintenant un siècle, un grand vivant. C'est une dame qui a planté en 1900, et elle a voulu planter là, hein, et puis chaque fois, il y a une force qui a interdit de planter là où elle voulait. Et au bout d'un moment, elle a essayé de résister contre la force, et elle a une voix qui lui dit « Laisse la place pour le tombeau ». Alors elle n'a pas bien compris, bon, finalement elle l'a planté là, donc ça a laissé la place pour le tombeau de 1 hectare. En fait.
Voilà, donc 1 hectare est parti au ciel donc en août 1920. Voilà, donc ça c'était pour 1 hectare. Et donc maintenant je vais vous parler du deuxième saint, c'est un saint plus ancien. Saint Éphrem le Nouvel Apparu. Donc ça c'est... Voilà, je vous montre déjà où est situé son monastère, mais à Macri, donc cette fois-ci c'est dans les terres, c'est pas sur une île, et c'est pas très loin d'Athènes, c'est un petit peu plus au nord d'Athènes. Voilà, c'est bien indiqué. Donc voilà le monastère. Monastère de Néa Macri. Donc c'est vraiment très beau, j'ai été vraiment subjuguée par son monastère.
Et quelles sont les dates de Saint Éphrem? Est-ce que c'est
quand
Saint-Éphrem très connu?
Il y a plusieurs Saint-Éphrem
alors. Ouais. D'accord.
C'est là qu'on les regarde.
En fait, il est mort en 1426.
Ah d'accord.
Ici, le tombeau de la chasse avec une vitrine et les ossements sont visibles.
C'est là les ossements.
Oui, dans la chasse, elle est droite. Ici.
Ça c'était pour ces photos, je crois. Ah non, d'accord. Celle-là, c'est moi. Enfin, je ne sais plus, un mélange.
Ouais, ça c'est pas moi, je
sais pas, j'ai fait la même chose. Ouais. Oui, celle-là, c'est toi, c'est la photo, parce que j'ai pas le temps de me souvenir. Voilà, donc je vous fais visiter un peu. Et ça, c'est depuis l'intérieur d'un... Enfin, c'est vraiment le vitrail, on voit à travers, donc je ne sais pas comment. Voilà. Donc c'est vraiment très beau, c'est paisible aussi. Alors, c'est différent. Donc Saint Éphrem, c'est un homme qui a connu un très très grand martyr, un martyr terrible, on peut dire, parce qu'il n'a jamais voulu renier sa foi. Donc Éphrem, il a été moine à Néa Macri, près d'Athènes. Et en fait, il y a les Turcs qui ont envahi la région. Et lui, il a été persécuté par les Turcs. Donc il a refusé d'adhérer à l'islam. Il a été martyrisé pendant plusieurs mois, on dit même 8 mois. Il a été pendu par les pieds à un arbre, le corps transpercé de bûches brûlantes, et il a mouru en glorifiant Dieu. Donc il est mort en glorifiant Dieu. Donc ça, c'est voilà comment il est souvent représenté, Saint Éphrem. Il a été crucifié à l'envers, on dit souvent ça. Mais il a eu des clous dans la tête, il a connu des brûlures épouvantables.
Bah, 8 mois et demi, excusez-moi, À 8 mois et demi, il faisait ce qui marquait dans le Coran, c'est-à-dire qu'il arrachait la peau. Il attendait que ça cicatrise, il recommençait à arracher la peau au même endroit.
C'était vraiment atrocible. C'est pour ça qu'on l'appelle un mégalo-martyr. C'est vraiment... C'est martyr. Donc il est souvent voilà, des exemples d'icônes qui le représentent. Alors ce qui est fou, c'est que son corps avait complètement disparu. Et il y a une moniale qui est dans son monastère, enfin on appelle ça une igoumène en termes orthodoxes, ça veut dire une abbesse si vous préférez. Elle s'appelle Macaria et un jour elle a fait un rêve très très puissant, un rêve où elle voyait l'emplacement du corps, enfin ce qu'il en restait en tout cas, de Saint Éphrem. Donc ça se passe en 1950 et donc Macaria, eh bien, elle a une vision, en fait c'est un rêve au départ. Et après, elle a demandé à un ouvrier de creuser un endroit précis et il en faisait qu'à sa tête, il creusait ailleurs au début. Il a dû batailler, finalement il a accepté de creuser, mais il creusait très vite. Elle lui disait, mais pas trop vite, parce qu'elle savait qu'il allait trouver des os. Et en effet, donc, les os ont été retrouvés complètement intacts. Donc ça c'est extraordinaire, parce que c'était c'est quand même, ça date de plusieurs siècles, hein, donc ils ont trouvé les eaux intactes. Alors, Saint-Éphrem, il y a eu aussi de nombreux miracles suite par son intercession. Alors, la Monia Macaria, elle a écrit ce livre-là, et ça relate vraiment plein de, bah, du temps de son vivant à elle, tous les miracles qu'il y a eu au XXe siècle avec Saint-Éphrem, des gens qui venaient prier dans le monastère. Elle a relaté des visions, des gens qui l'ont vu apparaître, il y en a eu pas mal quand même, c'est assez impressionnant. Donc voilà, et le monastère abrite, on arrive à apercevoir à travers une espèce d'ouverture, on aperçoit l'arbre où il a été martyrisé, il est toujours là, et l'arbre est un peu desséché, mais quand même on le voit, l'arbre sur lequel le Saint-Éphrem a reçu la couronne du martyr.
Il est dans
le monastère. Alors des exemples de miracles, il y a aussi, il y en a tellement que c'est difficile de tous les relater, on ne peut plus se faire des choix. Il y a eu par exemple lors de la fête annuelle du Saint, le 5 mai, il y a toujours une procession des saints reliques, et là il y a un paralytique qui est arrivé et il pleurait vraiment, il pleurait même tellement qu'il dérangeait la cérémonie, et vraiment il hurlait, il disait Seigneur, enfin il disait Saint-Éphrem, il a confessé ses péchés à l'oral et il pleurait, il demandait la guérison. Et bien là il y a eu un miracle puisqu'il a pu se lever et suivre la procession, donc il a été complètement guéri. Un autre miracle, c'était un enfant de 5 ans dont les parents n'arrivaient plus à avoir de petits frères, de petites soeurs, enfin, ils n'arrivaient plus à avoir d'enfants. Et là, le Saint-Éphrem lui a paru et il lui a dit « tu vas avoir bientôt un petit frère voilà. ». Et donc là, il a dit ça à ses parents, et en effet, les parents ont, à ce moment-là, la maman est tombée enceinte, et donc il a eu un petit frère. Voilà. Donc c'est des exemples, mais là-dedans, il y en a des tonnes, je ne savais pas comment choisir, tellement il y en a des. Voilà, c'est tout.
petite complément à ce
que... Oui, avant... Ok, merci Claire. Merci. Il ne faut pas oublier qu'on ne vénère pas le Saint, on vénère à travers le Saint notre Dieu et Saint-Esprit. Jésus. Donc notre foi est en Jésus.
Ouais.
Et nous présentons l'Église orthodoxe pour l'unité chrétienne. Donc nous, on est appelés pour l'unité chrétienne. Soit orthodoxe, soit catholique, soit protestant, nous sommes tous frères et sœurs, ayant la croyance en Jésus, croyant en Jésus comme notre Christ. Voilà. Donc il ne faut pas oublier que nous, on est tous frères et sœurs, même si l'Église est différente, on est les frères, ayant la croyance en Jésus. Donc ce n'est pas les saints qu'on vénère, c'est à travers les saints sont... C'est le Seigneur qui utilise le saint, la vie des saints, pour nous donner la guérison, pour nous toucher, mais ce n'est pas les saints qu'on
vénère. Mais dans les croyances populaires, parfois les gens ne connaissent pas très bien et vénèrent les saints, mais Dieu il sait.
Oui, ouais. Finalement on va comprendre que c'est le Seigneur qu'on vénère.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Donc maintenant, un petit moment de questions.
Vous voulez compléter seulement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, parce que je ne peux pas faire la même raison, parce qu'en fait, on adore Dieu et on vénère les saints, il y a des différences. Et le saint est appelé à intercéder auprès de Dieu, parce que nous, on est trop petits, donc le saint peut aider, si vous voulez, dans votre prière, il peut l'intermédiaire, si vous voulez. C'est pas du tout, c'est pas que vous avez raison, on n'adore pas le saint. Donc, et deuxième précision, pour Saint-Éphrem de Nouvelle-Apparue, ce qui est remarquable, c'est qu'il est mort en 1426, torturé par les musulmans. Son corps a été enseveli par des chrétiens qui ont pu le récupérer à cette époque-là. Et pendant 500 ans, on n'a plus entendu parler. Mais oublié complètement. Et c'est dans un rêve, une moniale en 1950, a été invité à aller creuser, la trouver des ossements, et quand les ossements ont été mis à jour, les miracles ont commencé. Autrement dit, en fait, c'est Dieu qui a révélé la présence du saint. Et sinon, il était totalement oublié. Et ça, personne ne pouvait le deviner. Et alors, une particularité aussi, ce saint-là, donc ses ossements sont dans la chasse qu'on a vu tout à l'heure, dans le tombeau, là, et il est habillé, quand on va voir, il a aussi des chaussons. Et les chaussons, en fait, il faut les changer régulièrement parce qu'ils se salissent, parce qu'ils se baladent. Le saint se balade. Donc tous les mois, il faut changer les chaussons. Alors, à tel point qu'à Rome, à l'église orthodoxe, il y a y a l'icône du saint Ephrem, il y a une étagère dessous avec des chaussons. Parce qu'on récupère les chaussons sales, puis on lui met des neufs, c'est chaque fois. Donc c'est amusant, il va guérir à droite à gauche sans qu'on le sente à personne, et il salit ses chaussures.
Bon, ça me rappelle un certain nombre de gens qui refusent de monter directement au ciel, parce qu'ils ont tellement la foi pour les gens qui souffrent encore sur la terre, donc ils veulent visiter, ils veulent rester, même s'intéressent à prier en fait, pour rester sur la terre, pour vraiment faire la guérison, pour apporter la paix dans l'âme. Donc ça ne m'étonne pas, mais ça c'est quelque chose encore à faire un débat. Mais maintenant, la question.
Tout à l'heure, vous avez évoqué un ouvrage de la carrière de l'Aisne. Est-ce que les volailles sont disponibles
dans les livres? Ce qui m'a vraiment étonnée, je me suis dit, c'est quand je suis allée au monastère, déjà, j'ai acheté ça, je l'ai acheté au monastère, des photocopies. Déjà, j'ai halluciné, je me suis dit, tiens, ils n'ont pas un éditeur, quoi. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est un manque de moyens financiers, je ne sais pas.
Si, ce livre en fait, est édité aussi, pour aller à la procure, on peut le trouver.
De la monnaie de la carrière.
Oui,
Apparition générale de Saint-Esprit.
Oui, il existe en français. Par contre, il est incomplet parce que le complément est en anglais.
Par contre, celui de Saint-Esprit, celui-là, il est... Enfin, là,
c'est la même collection, c'est la même édition.
C'est la même édition, d'accord.
Oui, vous pouvez trouver.
Vous pouvez prendre les exemples.
Vous pouvez l'édition. Très bien.
D'autres questions?
C'est le plus grand saint orthodoxe connu ou...
En fait, il n'y a pas de comparaison. C'est quand dans la Trinité, il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Chaque saint a son charisme. Chaque saint a son charisme. Le Saint-Antime qui était spécialisé dans les femmes stériles, bon, il se trouve qu'il s'est spécialisé dedans. L'autre, c'est pour autre chose, vous voyez, chaque saint a une petite particularité, mais il n'y a pas de comparaison possible entre les saints.
Ici, ça s'appelle le nouvel apparu, c'est parce qu'on a retrouvé le Saint-Siècle.
C'est ça, tout à fait. Ouais. Il avait disparu, mais quand il a disparu, parce que Saint-Nectaire, les autres saints, on les connaît depuis toujours, ils ont apparu, on les a enterrés, ils sont manifestés, la vie est continue avec Saint et femmes nouvel apparu. En 1426, il a disparu, on n'entend plus entendu parler, et 500 ans après,
une
deuxième vie. Oui, c'est ça. Mais c'est, en fait, c'est Dieu qui décide. Hein. Ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure. Une autre
question. Vous avez parlé de la conversion à l'orthodoxie. C'est suite au miracle ou...
Non, au contraire, c'était... Je n'ai connu de miracle qu'après une conversion. Ce qui est remarquable, c'est que... il se trouve que quand étant catholique romain pendant 62 ans, moi-même, j'y croyais pas. J'étais ennuyé parce que quand je lisais les évangiles, il y a des miracles, il y a des guérisons, des exorcismes, des résurrections, etc. Mais comment ça fait qu'on n'en voit plus? Oui, mais c'est pas très visible, alors que là, je vous garantis que vous savez dans ces coins-là, c'est un véritable artifice, c'est curieux. Donc en fait, je ne suis pas converti à cause des miracles, c'est même c'est l'inverse, j'ai rencontré des miracles que après la conversion. Non, la seule raison de la conversion, c'était que, en fait, j'ai découvert que l'Église orthodoxe, c'est l'Église d'origine. Alors qu'en fait, l'Église catholique romaine est née en 1054. Après la scission, après le Chine, si vous voulez.
Alors, je pense que d'une certaine manière, on peut dire ça, comme on peut aussi dire que l'Église orthodoxe, avec un fond majuscule, est née après 1054 et qu'avant, l'Orient était catholique. Alors, en fait, disons, après, c'est ça. C'est une question de terminologie. C'est-à-dire que vous avez des églises sur lesquelles il a été marqué, l'Église catholique avec un grand C majuscule, les églises sur lesquelles il y avait marqué l'église orthodoxe avec un carreau majuscule, et d'autres églises, donc certaines églises protestantes, sur lesquelles il sera marqué l'église évangélique avec un carreau majuscule. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, quand les églises se sont séparées, elles ont besoin de prendre un nom, et c'est le nom qu'elles ont pris. Voilà. Avec justement l'ambiguïté de... C'est-à-dire que si moi je prends un nom pour mon église, est-ce que ça veut dire que je m'arrange le monopole? Voilà. C'est un peu l'ambiguïté. Par exemple, la façon de prendre un exemple politique, l'année dernière, l'UMP s'est baptisé les Républicains, alors d'accord, ils sont républicains, d'autres partis ont dit nous aussi on est républicains. Voilà. on veut dire que ça fait un peu le même genre d'individu. Alors, je vais continuer sur ça. Alors après, il y a catholique, orthodoxe, évangélique, avec un peu de évangélique, ça veut dire notre église vit de l'évangile. Je pense que les églises catholiques sont aussi évangéliques, et orthodoxes sont aussi évangéliques. Voilà. Orthodoxe, alors, à l'origine, ça veut dire, enfin, souvent on se trompe sur l'origine, ça veut dire la juste glorification. De toute la vie du chrétien, etc., tout ce qu'on va faire à l'église, c'est pour glorifier Dieu, le vouloir, de manière droite et juste. Et après, ça a eu un peu un glissement, et on a traduit ça par la juste foi, la foi droite. Voilà. Et alors, dans une certaine mesure, si on est catholique, on dit que bah, l'église catholique est aussi orthodoxe, évidemment, parce que sinon, on ne serait pas dans cette église-là. Catholique, avec un T minuscule, alors ça, c'est le terme qui est encore le plus ancien. L'une des premières attestations, c'est dans les lettres de Saint Ignace d'Antioche, vers 130-150, on ne sait pas trop. Donc c'est un saint syrien, évêque de la ville d'Antioche, voilà, bon, qui malheureusement pour lui a été déporté à Rome, tué par les lions, etc., et qui écrit des lettres à toutes les communautés chrétiennes qui croisaient. Voilà. Et c'est lui le premier qui a parlé de l'église catholique. Et en fait, alors, l'église catholique, ça veut dire, donc, avec un C minuscule, ça veut dire deux choses. Soit c'est une église qui est répandue selon la totalité, donc ça veut dire universelle. Et après, l'autre sens, hein, c'est-à-dire que c'est une église qui a la totalité de ce dont elle a besoin pour que les gens soient sauvés. Et donc, voilà. Et donc, d'une certaine manière, les églises orthodoxes orientales, russes, grecques, etc., sont catholiques avec un C minuscule, et les églises catholiques romaines, voilà, et orthodoxes avec un O minuscule. Voilà. Alors après, ce qui s'est passé, bon, c'est que, globalement, les orientaux utilisaient plus le mot orthodoxe, historiquement, ils ont été confrontés avec pas mal d'hérésies, etc. Et les occidentaux, à Rome, utilisaient plus le mot catholique, notamment à partir de Saint-Augustin, parce qu'ils étaient aussi confrontés à pas mal de schismes. Alors après, bon, ce qui s'est passé malheureusement, ouais, enfin, je pense que ceci est lié au péché des hommes, bah que culturellement, les Grecs, les Slaves, enfin, surtout les Grecs d'un côté, les Latins de l'autre, se sont séparés culturellement. Voilà. Les choses ont évolué séparément d'un côté, les orientaux étaient encore dans l'Empire romain, l'Empire byzantin, chez les Latins, les royaumes barbares, les Francs, etc. Voilà. Et, voilà. Et après, c'est vrai que, du coup, Rome avait toujours, l'Église romaine avait toujours des espèces de prétention d'aller dominer les autres. Ça, c'est vrai. Voilà. Je pense qu'il faut quand même les mettre. Et du coup, les autres se défendaient, disant, mais nous, on est même plus anciens que l'Église romaine. Et, si vous voulez, d'un point de vue culturel, même théologique, c'est un petit peu comme une espèce de dérive des continents. Et le schisme, on a reconnu la date de 1054, il y en a eu d'autres avant, on s'est réconcilié in extremis, c'est le 1054, il y en a eu après. Voilà, et en fait, à partir de ce moment-là, chacun a dû choisir son nom. Et donc les catholiques, enfin, l'Église romaine, adhèrent le nom qu'elle était toujours donné, l'Église catholique. De l'autre côté, les orientaux, on garde le nom qu'ils avaient toujours eu, l'Église orthodoxe. Et je précise que quand on récite le credo, donc notre orthodoxe utilise aussi le mot catholique, et ça fait bien l'Église catholique romaine. C'est-à-dire, je crois à l'Église, donc, une sainte, catholique.
Non, mais catholique, c'est universel. Voilà. Oui, mais c'est universel. Ça n'a rien à voir avec la catholicisme romaine.
Voilà, voilà. Bon. Parce que c'est vrai qu'après, ce qui s'est passé, c'est qu'avant 1054, on a dit historiquement, c'est plus juste de dire ça, on était en communion les uns avec les autres.
Mm-hmm.
Voilà. Donc, c'est ça. Alors, voilà. Il y avait une Église bon, dans laquelle il y avait déjà beaucoup de conflits, vous avez un peu de temps, les conflits.
Il y a toujours eu des conflits.
Voilà, les conflits.
Même à Boisville.
Voilà, et après, donc ça explique aussi qu'en fait on a un patrimoine commun. Alors pour moi, on ne peut pas lui mettre un C majuscule, un O majuscule, on peut lui mettre un C minuscule, un O majuscule. Voilà, qui est par exemple le patrimoine des saints des premiers siècles. Par exemple, il y a un certain nombre de saints qui sont très vénérés, donc des saints d'Orient, que l'Église catholique vénère aussi. Saint-Agathe, Saint-Grégoire, Saint-Gilles, etc. Et inversement, des saints de l'Église romaine ou orientale, que occidentale, que les orientaux.
Alors, excusez-moi, est-ce que tu peux revenir à ce que vous dites? Parce qu'en fait, l'histoire, c'est pas tout à fait ça. C'est que l'Église, au début, j'ai dit tout à l'heure que c'est le Christ chef de l'Église, oui. Et l'Église orthodoxe, catholique orthodoxe, elle s'appelait comme ça au début. Vous avez dit, c'est un lignage en toche, vous avez raison. Donc l'Église catholique orthodoxe du début était organisée en métropole, exprès, pourquoi? Pour éviter qu'il y ait cette confusion entre le chef unique, ou le roi Antoine, monsieur le serviteur, d'accord, le pape, c'est l'évêque de Rome. Non mais,
Des orthodoxes, de l'église catholique et de l'église protestante, c'est un beau témoignage de pouvoir prier et témoigner ensemble. Je pense qu'il y a un écueil, quelque chose vraiment à éviter quand on présente son église. Au lieu de présenter les richesses de son église, parce que chacune des églises a des richesses, on commence à comparer avec l'autre église. On dit, mon église elle est ça, et vous non. Ça, je pense que c'est pas, ça ne construit, voilà, ça ne construit pas l'écuménisme. Au contraire, ça appauvrit le partage et le témoignage de ce qu'on essaye de vivre. Et effectivement,
oui, Seigneur, tu es bon.
Oui,
Seigneur, tu es ma force.
Oui,
Seigneur, tu es bon. Alléluia.
Oui, Seigneur, tu es ma force.
Oui, nous sommes des humains.
Mais on a tous une sensibilité et puis on l'apprend tous les jours. Voilà.
On est appelé à passer dans la condition, on est appelé pour
l'unité.
Il y a une place, même le portier dans le ciel, vaut mieux que sur la terre. Donc, c'est pas la peine de se comparer, de dire d'où on est premier, d'où vous êtes le deuxième, d'où on est plus haut. Ça, ça n'a aucun sens. Parce que le pouvoir sur la terre, ça ne vient pas de nous. Le vrai pouvoir, ça vient du ciel, ça vient du Seigneur. Donc il ne faut jamais oublier qu'une place au ciel, c'est bon, mieux que toutes les places, tous les pouvoirs sur la terre.
Amen.
Voilà. Donc, avant de passer au partage de parole, je vais faire trois petites annonces. On a créé un site, donc étoiledeberger.org. Donc, vous pouvez maintenant échanger vos informations sur le site, et aussi écrire sur le site aussi. Et une des fonctions, c'est que vous pouvez déposer l'intention de prière. Et quand vous écrivez l'intention de prière, il y a un programme, donc on peut prier ensemble. On a essayé, et il y a aussi un inconnu qui a déposé son intention de prière. Donc, du coup, on a prié ensemble pour lui. Donc, il y a cette fonction sur le site, donc il faut bien utiliser. Et la deuxième chose, c'est que, parce qu'il y a aussi avec l'orthodoxe, il y a un pain dont le corps ne se corrompt pas. Chez nous aussi, dans l'église catholique, il y a par exemple un padre Pio, le corps est exposé et le corps est intact. Okay. Donc on est déjà allé avec Jean-Michel voir son sanctuaire. Donc l'année prochaine, on est en train d'organiser en fait un pèlerinage à Saint-Denis-Rotondo pour rencontrer padre Pio. Ça sera à peu près une semaine à peu près, je pense. On n'a pas encore fixé, mais on va vous confirmer soit janvier ou février. Donc voilà, c'est prévu pour le mois de mai. Et puis la troisième chose, c'est pour le témoignage du mois de janvier. Bon, cet exercice est assez catholique, mais bon. Il était assez longtemps dans la communauté Emmanuel. Il a donné beaucoup de guérisons. Il a un grand pouvoir de guérison. Je l'ai vu aussi en face de moi comment il guérit les gens. Et donc, il va venir témoigner. Il va aussi témoigner quelques miracles qu'il a vécu. Je pense que ce qu'on a entendu aujourd'hui comme guérison, tout ça, les miracles, c'est un peu prophétique aussi pour le témoignage du mois prochain. Donc voilà, on attend encore un autre témoignage assez poignant pour le mois prochain. Voilà.
Donc, quelle
date? Le date, c'est 24 janvier.
Comment s'appelle la personne?
Moi, j'ai pas possible, déjà. Du coup, c'est une question trop directe. Je vais afficher sur le site.
Je
Juste de temps court, je voudrais vous remercier pour le témoignage que vous avez fait et de parler des interpellés. Donc merci pour ça, pour avoir pris le temps, parce que ça c'est une bénédiction pour nous aussi. Donc merci tout simplement. Et ensuite, on va juste, comme il reste un quart d'heure, on va juste lire un petit peu la parole et échanger sur la parole. Alors peut-être que je veux prendre
Moi, je vais juste une boutade, donc on va vous trouver organiser un séminaire devant Saint-Sauveur. J'étais dimanche à Michel, je vais vénéré par les catholiques et les orthodoxes,
Si vous avez la proposition, appelez-moi et je vais organiser des choses.
Ah
bah
ouais, c'est bien ça.
La parole de chacun. Oui. Je vais faire la lecture.